Et les midis, ça repart. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, je recevrai l'auteur et photographe Jean-Philippe Toussaint. Ce sera à 13h, mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Une enquête vient de sortir sur l'écosystème du rap français. Jul, PNL ou Gims, les rappeurs sont au sommet de l'industrie musicale et signent des contrats qui peuvent s'élever à des dizaines de millions d'euros. Et cet argent ne passe pas inaperçu. L'emprise du crime organisé plane au-dessus du rap français. Aujourd'hui devenus des personnalités courtisées par les rois et les présidents, les rappeurs poursuivent leur conquête en dehors de l'Hexagone, de Dubaï à Kinshasa. L'empire du rap français, c'est le dossier du Point Culture du jour. Paul Deschman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef d'Africa Intelligence et vous venez de faire paraître aux éditions Flammarion un travail de 2 ans sur le terrain intitulé « L'Empire, enquête au cœur du rap français » que vous co-signez avec Simon Piel et Joanne Tilwin. Alors dans ce livre, vous dévoilez l'emprise du crime organisé sur le milieu du rap français. Pourquoi ce livre maintenant et qu'est-ce qui vous a fait dire que ce sujet dépassait la taille d'un article et valait un livre ?
On voulait avant tout raconter un pouvoir. Le rap français est la musique la plus consommée, la plus écoutée. C'est les 2/3 des ventes d'albums en France depuis maintenant au moins 5 ans. Et on s'était rendu compte qu'en dehors du travail évidemment de journalistes spécialisés qui ont raconté cette épopée, il n'y avait pas eu d'enquête journalistique à proprement parler sur l'écosystème du rap français, c'est-à-dire sur les interactions entre ces artistes et les maisons de disques, ces artistes et les politiques ou encore les hommes d'affaires. Et on a voulu raconter justement cet écosystème avec une approche, on va dire, d'enquête politico-financière, donc des méthodes d'enquête classiques, d'investigation, pour raconter finalement aujourd'hui un pouvoir qui nous semblait à la fois culturel mais aussi financier.
Alors justement, vous parliez d'enquête. Quelles sont les méthodes que vous avez développées pour recueillir tous ces témoignages ?
Alors nous, on a vraiment travaillé comme on travaille habituellement sur d'autres sujets. Joanne et Simon, par exemple, ont beaucoup travaillé sur les financements libyens. Donc on a appliqué des méthodes très classiques d'enquête politico-financière, donc des rencontres avec des sources humaines, évidemment, aussi beaucoup de documents, des procédures judiciaires, des contrats avec des artistes, donc un nombre de documents confidentiels qu'on a épluchés, plus des documents publics, que ce soit des statuts d'entreprise. Donc c'est vraiment assez classique sur la forme pour, en effet, en revanche, des enquêtés qui, eux, n'étaient pas tous des fois familiers de ces méthodes d'enquête. Et donc il a fallu faire un travail des fois un peu de pédagogie pour expliciter notre démarche, l'indépendance de notre démarche, qu'il n'y avait pas d'agenda caché et que c'était dans une logique vraiment de pouvoir enquêter comme on enquêterait sur n'importe quel autre secteur. On prenait souvent l'exemple d'enquêter, je sais pas, sur l'industrie pharmaceutique ou sur n'importe quelle autre économie. Et donc ça, c'était vraiment un peu le défi qui était le nôtre.
N'importe quel secteur, mais pourtant c'est un secteur qui a du mal à parler. On le voit, toutes vos sources, par exemple, sont anonymes.
Oui, complètement. Et c'est vrai que c'était un des points qui très vite nous a interpellés, c'est que c'est à la fois un secteur qui est très ouvert parce qu'évidemment que c'est des artistes qu'on voit et qui sont visibles, mais que dès qu'il s'agit d'évoquer les coulisses de cette industrie, c'est tout de suite plus compliqué, à la fois sur les enjeux contractuels entre les artistes et les maisons de disques, mais aussi sur des sujets beaucoup plus sensibles qui nous sont remontés très rapidement et qui ne sont pas, nous, un sujet qu'on voit tout de suite, qui est l'emprise sur certains artistes. Et on prend évidemment le son de ne surtout pas généraliser son du crime organisé ou de groupes criminels autour de certains artistes.
Ça veut dire que cette histoire de crime organisé, c'est arrivé après. Au départ, vous vouliez vraiment enquêter sur le milieu du rap.
Oui.
Et ce qui vous remonte de toutes ces interviews, c'est qu'en fait, il y a une autre emprise en cours.
Oui, c'est ça. En fait, le point de départ, il est vraiment de raconter ce pouvoir et cette puissance. Et elle se matérialise plutôt par des petites anecdotes qui nous sont remontées et qui nous semblent raconter en fait autre chose que de la musique. J'en prends deux qui illustrent un petit peu comment on se dit qu'il faut enquêter. La première, c'est Gims, donc le rappeur congolais, il n'est pas français, qui rencontre la moitié des présidents du continent africain, qui a une relation avec Mohamed VI, avec l'émir de Dubaï. On se dit, ça raconte finalement quelque chose d'autre. Et l'autre, c'est Jul, qui est reçu par Rodolphe Saadé en avril 2023. Et donc le point de départ, il est ici. Et puis assez rapidement, c'est vrai qu'on nous fait remonter que depuis un certain nombre d'années, de mois, nous on commence cette enquête en 2023, les artistes sont l'objet de graves pressions, de mesures d'extorsion, et que ça devient vraiment un sujet pour les maisons de disques, ça devient un sujet pour les artistes eux-mêmes, parce que ça a un impact sur le processus créatif. Et donc, on se rend compte qu'on avait évidemment des hypothèses d'enquête et de travail en disant que ça pouvait exister. Il y avait eu des exemples qui avaient été médiatisés, mais on ne mesurait peut-être pas l'emprise sur certains. Et puis, en fait, très rapidement, au bout d'un an, il y a l'affaire SCH, qui a été évidemment une affaire assez traumatisante pour toute l'industrie du rap, puis l'évasion spectaculaire de Mohamed Amra qui met à jour les relations entre le rappeur Kobalade et une partie des membres du commando.
Mais alors, quand on réalise une enquête comme celle-ci, comment on peut éviter la stigmatisation du rap ? Vous en avez dit un mot, mais on y pense tout de suite.
Oui, alors nous, on a fait un travail vraiment assez méthodologique de ne surtout pas généraliser, de s'appuyer exclusivement sur des cas très particuliers qu'on documente, qu'on étaye et on raconte surtout tout l'éventail de cette culture. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas évidemment au lien avec le banditisme qui représente même pas 25% du livre. Tout le reste raconte comment les rappeurs ont imposé de façon spectaculaire leurs conditions aux maisons de disques. On parle de PNL, on parle de Jul, comment ces rappeurs-là ont réussi à s'affranchir des maisons de disques qu'on pouvait juger des fois comme très prédatrices, comment ils ont inversé le rapport de force. On raconte à quel point ce sont aussi des entrepreneurs. Hein. Tous ces artistes dont on parle dans le livre sont leurs propres producteurs, ils sont souvent leurs propres éditeurs, leurs propres tourneurs. Ce sont aussi des entrepreneurs qui ont massivement réussi à créer des sociétés. Donc on raconte surtout une conquête. Et donc, c'est vrai que si on s'intéresse que à l'aspect banditisme, on limite évidemment peut-être beaucoup du poids et du pouvoir de ces artistes.
Vous dites conquête, c'est pour ça aussi que votre livre s'appelle L'Empire, pour montrer l'étendue du pouvoir du rap français aujourd'hui ?
Oui, complètement. C'était l'idée, c'est une conquête. C'est vrai qu'elle a commencé il n'y a pas 10 ans. Nous, on s'intéresse exclusivement, on va dire, à ce qu'on appelle des spécialistes deuxième âge d'or du rap français. Donc, c'est 2015-2025. Mais c'est une conquête qui a commencé dans les années 90. C'est vrai que ces artistes comme Jul, PNL ont été les derniers seigneurs à conquérir toute la France. Mais oui, c'était un empire financier, un empire culturel. Et on a voulu regarder toutes les facettes de cet empire, dont les facettes évidemment les plus obscures, dont il était compliqué de faire l'économie au vu du poids et de ce qui nous était remonté par ces acteurs même de cette industrie.
Dernière question, Paul Deschmann. Vous le relevez d'ailleurs plusieurs fois dans votre livre. Hein, le rap est un milieu très masculin. Est-ce que la présence de femmes pourrait changer les mécanismes à l'œuvre selon vous ?
C'est une très bonne question. Certains acteurs et actrices qu'on a pu rencontrer nous l'ont dit, que c'était un manque aujourd'hui, en tout cas à tous les niveaux, et que évidemment que je pense que plus d'inclusivité de genre pourrait faciliter aujourd'hui peut-être les interactions dans cette industrie. Et c'est vrai que c'est des sujets aujourd'hui qui doivent être mis sur la table, sur cette présence quasiment nulle des femmes dans cette industrie.
Est-ce qu'ils le sont déjà mis sur la table ou pas encore ?
Manifestement, je pense qu'il y a des réflexions à avoir côté industrie. On voit bien que sur les violences sexuelles, aujourd'hui, il y a des artistes qui ont été mis en examen, incarcérés sans nécessairement que des contrats soient rendus. J'ai l'impression que le sujet n'est pas nouveau. Hein. Il se posait déjà avec l'affaire Quanta quand on regarde il y a quelques années. Donc c'est un vrai sujet, en tout cas, sur lequel l'industrie semble, en tout cas, communiquer. En termes de mesures de décision, on a l'impression qu'il y a encore pas mal d'attentes à avoir vis-à-vis d'eux.
L'Empire, enquête au cœur du rap français que vous co-signez donc, apparu aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Paul Deschmann.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le boycott du prochain Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'organise.
Oui, depuis l'annonce ce week-end de la reconduction pour 10 ans de la société 9e Art Plus à la tête du Festival d'Angoulême, les boycotts s'accumulent et font planer le doute quant à la tenue de la prochaine édition prévue en janvier. Les maisons d'édition d'Argo, Dupuis, Le Lombard, Cana et Urban Comics ont déjà annoncé qu'elles ne se rendraient pas à Angoulême. Casterman, Glénat et Delcourt, les autres mastodontes de l'édition BD en France, ont lancé un ultimatum au pouvoir public pour qu'une solution soit trouvée d'ici lundi. Tous demandent l'annulation de la reconduction de 9e Art Plus et la mise à l'écart de son directeur Franck Bondou et de celle de Delphine Groux, la présidente de l'association du festival.
Direction l'Afrique de l'Est, à présent où 130 objets ont été restitués au Ghana par deux pays européens.
Oui, c'est Osei Tutu II, le roi des Ashanti, un des peuples du Ghana, qui a reçu ces objets lors d'une cérémonie au musée du palais Manya à Kumasi. Parmi la centaine d'artefacts rendus par la Suisse et le Royaume-Uni, on compte de précieux insignes royaux, des tambours ou encore des objets cérémoniels en or. Ils proviennent à la fois des collections du musée Barbier-Muller de Genève ou de la collection personnelle de l'historienne de l'art britannique Hermione Waterfield. Une restitution conséquente qui vient s'ajouter aux 67 autres objets récupérés par le Ghana en 2024 en provenance du British Museum ou du Victoria and Albert Museum de Londres.
Et pour finir, Marie, une œuvre de Marlène Dumas rejoint les collections permanentes du Louvre.
Oui, le musée a commandé à l'artiste sud-africaine une œuvre qui sera visible par le public à partir du mois de décembre, intitulée Liaison. Elle sera accrochée dans l'entrée de la Porte des Lions et sera composée de 9 toiles. C'est la première fois qu'une femme artiste contemporaine fait son entrée dans les collections du Louvre. Née en Afrique du Sud en 1953, Marlène Dumas vit et travaille à Amsterdam depuis plus de 40 ans. Elle est connue pour ses portraits déformés qu'elle réalise à l'encre, à l'aquarelle ou à la peinture. Mondialement connue, elle a été exposée dans les plus grands musées du monde et notamment au musée d'Orsay en 2021.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.